Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour Denis Diemarino.
Bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs surtout.
Voilà, et bien par cette belle journée, nous sommes heureux de vous retrouver avec une pensée pour Gisèle, qui a des petits soucis de santé, mais qui pense à nous en ce moment. Elle sait où nous sommes et elle sait de quoi nous parlons. Et nous lui souhaitons, bien sûr, un bon rétablissement, même un prompt rétablissement. Nous allons aujourd'hui partir un peu en Europe, si vous le voulez bien, et nous allons circuler de ci, de là, grâce à notre ami Denis Diemarino. Je parle de Denis Diemarino, donc nous irons voir peut-être d'où vient ce patronyme. Mais avant, nous allons nous regarder, pencher sur cette Europe dont on parle beaucoup, nous pencher aussi un petit peu sur notre pays, car nous vivons en France et en Europe qui, dans le passé, comme vous savez, ont eu une riche histoire. Et cette histoire, eh bien, elle progresse jour après jour. Elle traverse les périodes fastes et les temps néfastes. Les hommes et les femmes forgent ainsi leur présent et leur avenir en traversant les tempêtes de toute vie, les tempêtes de toute épreuve. Issus parfois de parents nés en deux pays différents et complémentaires, ils savent que la connaissance des langues lève quantité de barrières et ouvre la voie à deux cultures, à deux histoires, à deux cœurs, à deux mentalités. Denis Diemarino, humaniste et historien fidèle, apporte ici son expérience, et nous la remercions, son expérience donc des relations familiales franco-allemandes. En ce début de juillet 2024, à l'heure où l'Europe poursuit avec courage et espoir et détermination son cheminement, sa bonne humeur, sa vaste culture et sa passion de l'histoire, tout cela bien sûr de notre invité, apportent leur pierre à l'espace européen en marche. Et cet espace, comme l'histoire, qu'il faut sans cesse interroger. Car l'histoire nous accompagne, il y a un passé, il y a un présent et bien sûr, il y a un avenir. Donc aujourd'hui, nous allons embarquer pour partir, disons d'abord vers le sud, car je reviens sur le patronyme, avant de partir sur le patronyme peut-être de madame, de la maman, de la mère. Nous allons d'abord dans un petit pays, je ne sais pas, une petite ville, Diemarino. Cher ami, éclairez-nous, qu'est-ce qui se cache derrière cette sonorité latine et méditerranéenne ?
Oui, merci. Il ne s'agit pas de quelque chose de bien grave, puisque la petite ville de San Marino, Saint-Marin, oui, existe toujours, et à tel point qu'elle n'a jamais été italienne, malgré la langue parlée. Elle a été toujours indépendante, et elle l'est toujours, au même titre que notre Monaco. Voilà. Au même titre que notre Monaco. Alors, San Marino est situé non loin, à quelques encablures de la mer Adriatique, dans la région de Forlì, Ravenne, etc. Et pratiquement constamment baigné par un soleil bien agréable qui fait que les touristes s'y précipitent. Oh, ce n'est pas un grand comté, c'est une petite, je dirais, une petite entité qui est de l'ordre de notre Mont-Saint-Michel. Mmh. Un petit peu plus grande peut-être, mais pas plus grande. Alors, l'origine de la famille, vous avez beaucoup de gens qui ont émigré vers d'autres pays européens, y compris d'ailleurs même l'Italie, et qui se sont appelés d'ailleurs des gens, c'était en principe des gens nobles, qui se sont appelés des gens de Saint-Marin. Donc, Diemarino, ça veut dire de Saint-Marin. Voilà.
Voilà.
Et là, c'est le cas, puisque la famille, c'était des nobles avec un titre de comte, qu'on a gardé d'ailleurs tout le long. et qui se sont un petit peu étendus, un petit peu en Europe, pas mal en Suisse, dans le Tessin.
Ah oui.
Et également en France, par l'attirance que ce pays pouvait avoir pour eux, par sa richesse, par sa bonne organisation, etc. Alors, ce qui s'est passé, puisque, en fait, dans la famille Di Marino, et je parle là de mon grand-père que j'ai bien connu, ces gens-là avaient une activité commerciale qui était l'antiquité. C'était des antiquaires, mais des vrais antiquaires.
Hein, d'accord.
Voilà. Et ces antiquaires se sont établis dans la Savoie. Hein, la Savoie, Savoie en italien, qui était italienne jusqu'en 1866, hein, et qui a été ensuite cédée à la République française. Et ils sont devenus français parce qu'ils ont opté pour cette nationalité, puisqu'ils vivaient déjà pratiquement aux confins de la France. Ils sont devenus donc français par annexion tout simplement de la Savoie et se sont ensuite répandus dans une région où il était plus facile de faire des affaires, notamment en Antiquité, et ils se sont établis sur la place de Marseille.
Oui. Hein,
pourquoi ?
Oui,
parce que
bah oui.
Marseille était une ville déjà cosmopolite à l'époque. Hein, elle accueillait beaucoup de ressortissants africains, de ressortissants de l'Est de la Méditerranée, de Libanais, d'Arméniens. Je veux dire,
l'histoire de Marseille.
Il n'y a presque pas de Français de souche à Marseille parce que c'est une ville qui a tout le monde, comme tous les ports d'ailleurs, comme beaucoup de ports dans l'Europe, ils ont toujours accueilli des gens de toute provenance, voilà, par leur spécialité, par leur et peut-être aussi leur envie de connaître une autre vie. Hein. Et
oui,
ils se sont établis à Marseille, ils ont brillamment réussi, puisque je dois dire sans honte que ça a ramené beaucoup de petits deniers à la famille.
D'accord.
Hein, voilà, c'est l'Antiquité était très très prisée. Bon, on achetait beaucoup de choses. Voilà. Donc, il a même exporté, pour tout vous dire, ce grand-père, il a même exporté de l'Antiquité vers les États-Unis.
Oui, ils en sont friands.
Par conteneur entier.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Et donc,
les amphores, etc.
Voilà,
les pièces
de
monnaie.
Ça a permis d'avoir une vie très très à l'aise.
Oui. Hein.
Et d'ailleurs, mes cousins ont tous été des gens qui ont après brillamment réussi, chacun dans un domaine différent.
D'accord.
Puisque j'ai un grand médecin, puisque j'ai une juge qui était à la cour de cassation, etc., etc. Alors, tous les enfants, qui étaient issus de mon oncle, qui était lui-même traducteur juré sur le port de Marseille, hein, parce qu'on recevait des marins, il y avait des problèmes avec les différentes nationalités, et bien entendu, ça lui a permis également de prospérer sur le plan financier.
Voilà
un peu l'origine de la famille qui s'est établie, qui continue d'ailleurs à vivre très nombreuse dans la région du sud de la France. Hein. Et puis voilà, donc ce sont des gens qui se sont précipités, je dirais, après pour s'introduire dans la société française et ne plus paraître comme des gens qui étaient d'origine étrangère.
Voilà, pour s'intégrer aussi.
Alors, pourquoi Marseille ? Parce qu'effectivement, c'était plus facile de s'intégrer dans une ville cosmopolite que dans une ville du nord de la France.
Hein,
ça paraît évident.
Voilà. C'était le sud, le même climat.
C'était le sud, le même climat. Les mêmes mentalités aussi.
Les mentalités, c'est important
pour
s'intégrer.
Pareil, hein,
les mêmes mentalités.
Voilà.
Hein. Voilà. Voilà. Oui, tout à fait. Et un port offre beaucoup de possibilités.
Voilà.
On
sort et on rentre.
Voilà, tous les grands. Marseille, porte de l'Orient, comme on disait autrefois.
Voilà, porte de l'Orient, et avec tout ce que cela comportait comme rapport qu'on pouvait avoir avec toutes ces populations d'origines diverses.
Oui, avec la Méditerranée comme dénominateur commun.
Bien entendu.
Et le soleil.
Et le soleil, surtout.
Et les fleurs.
Ah, les fleurs aussi. C'est
N'oublions
vrai.
Pas que chaque année, c'est Saint-Marin qui offre les fleurs, les gerbes, au concert de Nouvel An.
De Nouvel An, tout à fait.
À Vienne,
fait.
C'est
tout
toujours offert par Saint-Marin.
Saint-Marin, voilà.
L'estrade est bordée de fleurs.
Pardonnez-moi, mais quand je prononce à l'italienne, parce que
Ah non, c'est un peu plus de soleil, au contraire.
Je suis diplômé de cette langue aussi.
C'est bien, c'est bien. Ah non, puis c'est plus chaud. C'est...
Voilà.
Il y a la nature, voilà. il y a les cyprès.
Voilà, il y a les mimosas que j'ai plantés dans mon jardin. D'ailleurs.
Ah, c'est bien. Donc, c'est une enclave de San Marino.
C'est une enclave.
Il y a un drapeau.
Il y a d'autres.
Il y a un drapeau.
Oui, il y a un drapeau, qui est un drapeau, je crois, avec du jaune et du bleu, mais il ne faut pas en parler de trop parce que ça ressemble un peu à l'Ukraine. Alors,
oui. Mais si j'ai bon souvenir, le congrès de Vienne avait déjà reconnu 1815.
Oui.
Ils avaient reconnu San Marino déjà.
Tout à fait. Et c'est une, je dirais que c'est une ville ou un comté, disons, un peu plus grand, parce qu'il y a quand même l'agriculture, un comté qui a été hyper protégé pendant la guerre, parce que personne n'y a touché.
Bonaparte aussi n'y avait pas touché, Bonaparte.
Et Bonaparte n'y a pas touché, ce qui veut dire quelque chose.
Oui. Il avait du flair.
Il avait du flair, voilà.
Donc, même à Vienne, San Marino était là.
Et même à Vienne,
d'où
San
les
Marino,
fleurs, peut-être.
Toutes les fleurs, mais et encore maintenant.
Oui.
Et encore maintenant, c'est toujours fourni par la ville de San Marino.
D'où cette reconnaissance, peut-être, au congrès.
Voilà.
Les grands de ce monde ont fait attention.
Voilà, les grands de ce monde ont fait attention. Voilà.
Et Marseille, Marseille a bénéficié des vertus, des qualités.
Tout à fait, de tous ces peuples qui se sont mélangés par la force des choses, parce que à l'époque, on avait quand même l'école de la République, donc tout le monde y était astreint, tout le monde devait mettre ses enfants là-dedans, et puis la mentalité française est venue petit à petit dans les familles.
Et tout s'est enrichi grâce à des peuples venus, comme par exemple de San Marino.
Tout à fait.
Saint-Marin, fondé par un ermite, je crois.
Oui, un ermite,
fait. Ça remonte à 300 et quelques, je crois.
3 ou 4e siècle.
Ce sont des socles, des bases solides.
Ce sont des socles solides, tout à fait.
Ce sont des latins avec toute la philosophie, toute l'histoire du bassin méditerranéen.
Très lié aussi à l'organisation papale.
Tout près, et où est à l'Italie.
Il y a l'Italie, c'est à l'ouest de Rome, Saint-Marin. Il faut traverser l'Italie qui n'est pas très, 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 très grande. Donc, elle a toujours eu un lien avec la papauté.
C'est important.
C'est très important.
C'est un lieu qu'on va dire qui est béni des dieux.
Voilà.
Donc, nous allons quitter cet éclairage qui était utile et qui explique à nos auditeurs ce qui se cache, ce qui vit derrière.
Un éclairage de soleil.
De soleil. Et attention, les coups de soleil.
Attention, les coups de soleil.
C'est très bien. Donc, ceci, c'est du côté paternel.
Ça, c'est du côté paternel. Alors, bien entendu, pour terminer par lui, mon papa.
Oui,
Papa,
voilà. Et là, je voulais en venir.
Voilà, a étudié à Marseille parmi ses amis arméniens, libanais, tout ce que vous voulez, qui étaient mélangés. Et il avait embrassé quand même plusieurs cultures. Et après, il a eu le feu sacré de l'armée. Donc, il a fait une très belle carrière dans l'armée. Et puis, la guerre est survenue. Donc, on défendait la France.
Et oui.
Et non plus sans marins.
Il y avait des marins pour ça.
Il y avait des marins pour ça. Et j'ai malheureusement un membre de la famille qui est mort pour la France. D'ailleurs, pour revenir à notre souvenir français, qui est mort pour la France à Dunkerque, puisqu'il était fusilier marin. Voilà.
D'accord.
Donc, c'était des gens qui avaient non seulement opté pour la France pour sa culture et pour le fait d'y vivre, mais aussi pour la défendre. C'était aussi quelque chose qui était bien ancré et qui ont dû aussi se battre contre leur terre d'origine.
Eh oui.
d'Italie, hein, qui était devenu un ennemi de la France en 1940, comme tout le monde sait.
Voilà. Oui,
donc, vous
et
voyez,
oui.
C'était...
Donc, il a payé l'impôt du sang.
Il a payé l'impôt du sang, voilà.
En résistant aux invasions.
Eh bien, voilà. Eh ben voilà.
Il, est, voilà. Il n'a pas eu la chance de passer...
Voilà. Non. Voilà.
Cela, nous continuons notre voyage. Nous étions donc à San Marino,
ouais.
Une petite halte du souvenir à Dunkerque.
Oui.
Et maintenant, nous allons refranchir le Rhin, si vous voulez bien.
Oui, avec
et
plaisir.
Et s'interroger maintenant du côté maternel. Le côté maternel. Le côté paternel, on le voit grâce au patronyme.
Oui,
bon, c'est ainsi.
Oui, oui.
Il n'y a pas deux patronymes, il n'y en a qu'un. Maintenant,
oui,
il y a les deux, donc peut-être ça éclaire davantage. on évolue, les coutumes sont ainsi. Et alors maintenant, on va aller à la découverte du domaine de la maman.
De la maman, tout à fait.
Voilà. Mais avant, on va... partir un peu en musique, si vous le voulez
bien.
Ah,
avec grand plaisir.
Et même
oui.
Votre fils vient, on parle de la maman.
Vient
et
au
votre
secours.
Fils au secours. Alors, expliquez-nous comment votre fils vient là.
Alors, comment parce qu'il est... C'est un musicien, donc...
Oui.
Entre autres, hein, je veux dire, musicien
oui,
pour le plaisir.
Pour hein, le plaisir.
Bon, il a un métier,
c'est
bien
un
entendu.
Un violon dingue.
Mais c'est... plus qu'un violon dingue, c'est une passion.
Une passion.
Et,
donc, il est compositeur.
Il est guitariste et il s'est lancé aussi dans la composition. Et comme vous allez peut-être juger, peut-être, je ne sais pas, peut-être ça ne va pas vous plaire, mais il a le chic pour mettre quelque chose en musique et faire sortir un petit peu ce qui provenait un petit peu du nom. Alors,
oui.
Il va nous produire
oui.
quelque chose qui est un relent de l'Italie.
Donc, hein. On part à Naples, je crois. Hein.
On part à Naples, oui, c'est un peu plus bas que Saint-Marin,
oui,
mais enfin
oui,
bon.
Ça fait rien, et je crois que c'est un dimanche. Hein.
Et c'est un dimanche.
C'est un dimanche.
Una domenica a Napoli, ce qui veut dire un dimanche à Naples.
Bien, voilà. merci pour la traduction. Alors, nous partons. Le dimanche touche à sa fin.
Voilà.
C'est merveilleux.
Oh, ça fait un petit peu musique de parrain. De
oui,
film.
Oui, mais sans les coups de feu.
Oui, il manque les coups de feu.
Il manque les coups de feu. Mais enfin, non.
C'est vrai, c'est très beau.
C'est très beau, c'est un peu langoureux.
Oui, oui, oui. Hein? Oui.
On est sous le soleil le long de la Méditerranée.
Toujours.
C'est toujours. C'est bien, merci. Et félicitations au maître.
Ah ben, je vais lui...
Attention. Et maintenant, là, nous partons... Enfin, quelle direction? Après l'Italie, après le soleil...
Alors, nous partons très loin.
On part loin.
On part plutôt dans les brumes.
Dans les brumes. Hein,
dans les brumes de la Baltique.
Ah, sur les quais, quai des brumes.
Sur le quai des brumes. On part en Prusse orientale.
Ouh là là, où est-ce ceci? Éclairez-nous de grâce.
Où est-ce? Ben, c'est sur la Baltique déjà.
La Baltique, dont on parle maintenant.
Dont on parle maintenant. Et on parle surtout d'une ville, d'une enclave, parce que les politiciens après-guerre avaient toujours l'habitude de faire des enclaves pour créer les prochaines guerres.
Qu'est-ce qu'une enclave pour
Alors,
nos
une
auditeurs
enclave, ben, c'était quelque chose d'enfermé dans un autre territoire.
Ah oui.
Voilà. C'est en fait deux nationalités qui occupent. Une occupe l'enclave elle-même et l'autre.
Autour.
Autour.
Ah oui.
Voilà. Ce qui était déjà avant-guerre, le cas de la ville de ce qu'on appelle Königsberg en allemand, la montagne du roi. Königsberg, et le nouveau nom qu'ont donné les soviétiques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont occupé cette enclave et ils l'ont appelée Kaliningrad, dont on parle maintenant d'ailleurs, actuellement dans le cadre de la guerre avec l'Ukraine.
Mais l'enclave n'était pas esclave.
Et l'enclave n'était pas esclave, au contraire. L'enclave avait une grande importance économique, parce qu'elle faisait suite un petit peu à tout ce qu'on voyait déjà, mer du Nord, Baltique, etc., aux villes dites de la Hanse.
Voilà, oui. L'organisation commerciale.
L'organisation commerciale
d'Allemagne
qui
du
faisait
Nord.
Que l'Allemagne du Nord protestante, bien entendu, était ouverte vers tous les pays du monde, vers le vaste monde, par ces petits passages qu'elle avait. Alors, la Baltique, il fallait qu'elle passe par le Skagerrak danois. Mais la mer du Nord était plus libre. Elle passait devant l'Angleterre.
Oui, la France.
Mais elle avait quand même toutes ces villes de la Hanse qu'on a appelées. D'ailleurs, on trouve encore une petite lettre sur les plaques d'immatriculation des voitures, le H, qui veut dire Hansestadt, c'est-à-dire ville de la Hanse.
Ville hanséatique.
Alors, ville hanséatique, HH, Hambourg, donc ville hanséatique de Hambourg. Ou ville hanséatique de Brême, HB.
Lübeck aussi.
Et Lübeck, oui, HL. Alors, donc, ces villes étaient des villes très riches qui étaient gérées à la fois par beaucoup de notables protestants, beaucoup de banquiers juifs aussi, qui ont fait prospérer ces villes. Par le fait que des juifs, il y en avait un petit peu partout dans le monde, donc ils pouvaient commercer très facilement avec ces peuples. Ces villes sont demeurées des villes riches. Actuellement, Hambourg est une ville riche.
Ah oui, puis c'est une ville-État.
Et c'est une ville-État, en plus, de l'Allemagne. Donc c'est important, comme Berlin.
Oui.
Donc c'est quand même.
Mais
qui n'est pas hanséatique.
Elle est plutôt dans l'arrière-pays.
Ah, elle est dans l'arrière-pays, oui, bien dans l'arrière-pays. Alors voilà l'origine de la famille de ma maman, qui est cette Prusse orientale. Et au sud de cette Prusse orientale se trouve une localité, je dirais, qui est à peu près de la grandeur d'une ville comme maintenant Bourg-en-Bresse, qui est assez étendue, mais non moins limitée quand même, qui s'appelle Allenstein. Voilà la source de la famille.
La pierre sur la halle, peut-être.
Alors, comment est venue ma mère? C'était quand même intéressant.
Intéressant. Bon.
Alors, ma mère est issue d'une famille noble, allemande, prussienne. Mais il faut voir deux choses, et ça je l'ai bien précisé dans le livre que je vais un jour publié, si le Seigneur me laisse la vie.
Il n'y a pas de raison.
Oui, il n'y a pas de raison. Pour l'instant, j'ai été sage. Et, comment dirais-je? Et donc, c'est l'association de deux noblesses différentes. L'une qui est Uradel, c'est-à-dire noblesse d'origine, c'est-à-dire la grande noblesse, qui était donnée par mon arrière-grand-mère, et une famille de nobles également, mais de possesseurs terriens, en fait, qui étaient plus les pieds dans le crottin, mais qui étaient nobles, mais nobles parce qu'on l'avait anobli au cours des siècles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient nobles depuis, depuis 1800.
C'est autre chose,
ça remonte à loin. Mais ce n'était pas pareil. Alors, je me permets de lire, parce que je ne me rappelle jamais du nom total de ma grand-mère.
Ah oui, c'était le...
qui a un nom à rallonge. Alors, elle s'appelait, donc en prénom, Adelaide Gunhilde Amélie Ursula von Zanitz zu Rehfeld. Ça veut dire double noblesse.
D'accord, il y a le dessous et le von et le dessous.
Le von et le dessous, voilà. Alors ça, c'était... Et mon grand-père, qui était issu de cette famille, marié à cette dame que je viens de nommer, et Wilhelm August von Kaas.
Point. Ah oui, il y a moins de prénoms.
Von Kaas.
Von Kaas. Comme Patricia Kaas.
Comme Patricia Kaas. Voilà. Et qui était un propriétaire terrien et éleveur de chevaux. Et l'un des principaux commerces qu'il avait, c'était avec l'armée. Parce que l'armée avait besoin de chevaux à l'époque. C'était pas des chars, c'était des chevaux.
Non, pas encore.
Alors, et c'était surtout des chevaux pur sang. Et pourquoi on pouvait élever facilement dans cette région? Parce qu'il ne faut pas oublier que cette région dont je parle par connaissance, mais je n'y ai jamais été pour la raison que vous connaissez.
Oui.
Bon, comment dirais-je, était une région qui était faite de grandes forêts, mais aussi d'un terrain qui était sablonneux. Et les terrains sablonneux sont propices à l'élevage des chevaux parce qu'ils ne risquent pas de se fouler une cheville.
Le sol n'est pas dur.
Le sol n'est pas dur.
Et les chutes sont...
On y trouve pas mal de lichens et autres herbes que les chevaux aiment bien.
Donc
on faisait l'élevage là-dedans. Et évidemment, pour vous dire dans quel univers, là aussi, mon grand-père a évolué. Alors, il était bien entendu favorisé parce que les parents, vous doutez bien, avaient quelques petites ressources. Mais tous les gens qui y travaillaient étaient des Polonais.
Eh oui.
Dans ce bien. Et c'était des Polonais qui quittaient la Pologne, qui était relativement pauvre, où on cultivait que des patates. À l'époque, c'était un peu ça. Et ces gens-là allaient vers les gens riches parce qu'ils étaient aussi mieux payés.
Eh oui, il faut vivre.
Il faut vivre, voilà. Et c'était des gens qui étaient de très, très, très bons paysans, de très bons éleveurs de chevaux, d'ailleurs.
Sérieux.
Et des gens très sérieux au travail, avec, qui ont, je dois dire, d'après ce que m'a raconté mon grand-père, qui ont pratiquement élevé le gamin. Parce qu'il était toujours là, au milieu d'eux, dans les écuries, pour regarder qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et puis, de temps en temps, chose merveilleuse, on lui donnait les chevaux à aller promener.
Ah oui.
À la longe.
Et il apprenait en même temps.
Alors il apprenait en même temps. Ouais. Et puis, il y avait, je crois que c'était Monsieur Kaukas, qui était le maréchal Ferrand, qui était très grand, qui faisait 2 mètres de haut. Qui était évidemment très puissant, rouquin. Bien sûr, et qui maniait évidemment le fer et puis les fers à cheval qu'il était censé poser et qui lui a appris beaucoup de choses, mais même sur le plan, je dirais, de l'humanisme, parce que c'était des gens qu'on ne voyait pas du tout comme des étrangers.
Ah oui.
Pas du tout.
Ah oui.
D'ailleurs, cette noblesse, mon arrière-grand-mère était protestante, donc c'était des gens qui étaient généralement pas du tout, qui acceptaient tous les gens. La preuve, si vous voulez,
tolérance.
Une grande tolérance. Pourquoi? Parce que déjà la cour de Prusse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la cour de Prusse avait accueilli énormément de protestants qui fuyaient leur pays.
Oui, donc chez nous.
Y compris les Français,
les Huguenots.
D'ailleurs. Et d'ailleurs, vous avez encore actuellement beaucoup de noms français qui sont précédés d'un von, parce qu'on les a anoblis, Hein, mais on appelle ça, par exemple, un des chefs d'état-major de l'armée allemande en 1970, je crois, je ne crois pas me tromper, s'appelait Monsieur de Mézières.
Oui, oui, très français, hein, originaire de la Champagne, je crois.
Originaire de Champagne, à côté de Reims.
Tout à fait. Voilà.
Et cet homme-là, il était issu d'une famille qui avait immigré en Prusse parce que c'était le seul endroit où on acceptait les protestants.
Voilà, et voilà. Oui.
Et il y en a plein. Hein. Il y a encore plein d'hommes politiques même qui ont des noms
à consonance. Une grosse colonie, il y a eu.
Une très grosse colonie.
Berlin et tout.
Et ce qui a fait que ces protestants français ont pu bien
Ils ont apporté leur savoir, leur culture.
Et une tolérance aussi.
Une tolérance.
À un régime prussien qui était, un régime... Mais ne nous y trompons pas. La Prusse était déjà un pays riche. C'était un pays très bien organisé.
Et très évolué, peut-être.
Et très évolué, qui avait d'ailleurs, du reste, beaucoup copié les décisions d'un certain Napoléon Bonaparte, ça me dit quelque chose.
Oui.
Hein, dans beaucoup de domaines. Et d'ailleurs, pour vous citer des exemples, mon grand-père s'était intéressé, parce qu'il est bien entendu devenu militaire aussi. Hein. Il est devenu... lui aussi, c'était un cadet. À Berlin.
Un cadet, c'est-à-dire...
En école, un cadet, un enfant de troupe.
Un enfant de troupe.
Si vous voulez.
Oui, un jeune élève, en somme.
Comme moi. Oui. Et cet homme-là avait beaucoup étudié les capacités d'un Napoléon Bonaparte dans sa gestion des batailles,
hein, ah, oui,
avec des réserves, etc. Et surtout, il avait introduit une notion tout à fait nouvelle dans l'armée française, qui était le train des équipages, qu'on appelle maintenant tout simplement les régiments du train, qui apportent la logistique. Pourquoi ? Parce que quand vous faites avec la cavalerie 150-200 km dans la journée, il faut que derrière vous ayez des vivres, vous ayez des munitions, vous ayez des maréchaux ferrants.
Il faut que l'intendant suive.
Ces gens-là étaient spécialisés dans la logistique rapide avec des carrosses, avec 6 chevaux et puis conduits et qui étaient capables de rejoindre les 100 km en quelques heures.
C'est les Français qui ont apporté
ça.
Les Prussiens l'avaient pas à l'origine.
Et les Prussiens n'avaient pas, d'où leur lenteur dans certaines batailles.
Oui. Alors que nous, beaucoup plus rapides.
Bien sûr, on avait ça.
Ouais.
Ce qui explique d'ailleurs les victoires après d'Austerlitz et puis compagnie pour la
l'intendance
France.
L'intendance suivait, on avait ce qu'il fallait.
Suivait.
Et on mangeait après.
Voilà, les tendances et les réserves. On avait toujours des réserves de cavalerie, d'artillerie, etc. Ouais. Qui faisaient qu'on était supérieur à l'époque de Napoléon à tous nos ennemis, y compris d'ailleurs les Russes qu'on a battus à Austerlitz.
Voilà.
De Dieu.
Bien. On va partir en musique maintenant.
Oui, avec plaisir.
Avec plaisir. Alors, vous nous faites écouter une marche.
Oui.
Elle date de quelle époque?
Alors, une marche qui était employée, qui était jouée, notamment pour les cadets de cette école qui était dans la banlieue de Berlin, Berlin, qui était Lichterfeld.
Oui. Hein,
qui est devenu d'ailleurs la ville et l'emplacement de la caserne est devenu les archives de l'armée allemande.
D'accord.
Mais de la Wehrmacht et même l'armée actuelle.
Hein,
voilà.
Oui.
Donc c'est une marche qui a été dédiée à l'impératrice, je crois qu'on dit de Prusse, parce que il était Kaunka.
Hein, c'est ça.
Ce qu'on appelle Königlich und Kaiserlich, c'est-à-dire
royal
et impérial. Voilà. Parce qu'il était empereur des Allemands, mais il était roi de Prusse.
Eh oui, c'est à noter,
il
a ça.
Il n'a jamais quitté ça.
Donc, une dualité qu'il faut expliquer.
Pourquoi ? Parce que, vous savez, la Prusse avait toujours eu l'idée de réunir autour d'elle... ou plutôt en elle, dirais-je, les peuples de langue allemande. Et vous savez que l'Allemagne n'existait pas. L'Allemagne est récente. L'Allemagne date de 1871.
C'est vrai.
À Versailles.
Oui, oui. Galerie des Glaces.
Galerie des Glaces. Et il n'existait pas d'Allemagne. Il existait une Prusse.
Oui. Bon. C'était un État.
Et c'était un État. Et il y avait plein d'autres États qui étaient tout petits, qui étaient des comtés, des baronnies, bon, etc., etc., qui parlaient l'allemand, qui avaient la culture germanique, musicale, littéraire et autres, mais qui voulaient rester indépendantes.
Voilà.
D'ailleurs, pour tout vous dire, les Prussiens se sont affrontés aux Bavarois.
Le Sud, catholique.
Du Sud, très longtemps, catholique. Ouais. Eux, protestants, les autres, catholiques. Voilà. Et ils se sont également affrontés aux Autrichiens.
Ouais.
La fameuse bataille de Sadowa,
voilà.
1866, comme tout le monde sait.
Voilà.
Tout le monde l'a écrit.
Voilà, et oui. Et oui.
Voilà. Alors, cette marche était dédiée à cette impératrice et elle a été employée par ses enfants de troupe, ses cadets, ce qu'on appelait Kadettenschule, de Lichterfeld, qui était une des plus importantes. Il y en avait d'autres autre part, mais celle-là, c'était la maison mère.
C'était la maison mère.
Pourquoi ? Parce qu'elle était à Berlin.
Et oui,
voilà.
La capitale.
Voilà, la capitale. Mais sachez que, pour revenir à ça, Berlin était une ville très riche déjà à l'époque,
ouais.
Et beaucoup plus en avance que la France à ce niveau-là.
Oui, oui, elle avait bénéficié de nos qualités.
Elle avait déjà du tourisme, elle avait beaucoup de choses, et c'était également une ville qui était devenue cosmopolite. Heureusement qu'il ne l'a jamais quittée.
Ouais.
Actuellement,
déjà,
Berlin est toujours une ville cosmopolite.
Cosmopolite, toujours.
Très agréable.
Oui.
Hein, très agréable.
Donc, des richesses, des connaissances.
Voilà.
Un peu comme les villes, comme Marseille, qui
voilà.
était
pareil.
Le bienfait du cosmopolitisme.
C'est d'ailleurs des choses
faut voir l'histoire.
Qui se ressemblent. Hein.
Il
ne faut pas dire, oh ben non, le Nord, il n'y avait rien. Non, non, non.
Non.
Le Nord était très, très évolué.
Ouais.
Hein. C'était des gens, d'ailleurs, je l'expliquerai dans un de ces livres.
Bien sûr.
Le Berlin avait des hôtels, déjà avec des ascenseurs, absolument inconnus autre part.
Ouais.
Hein, je parle de ça en 1850.
Oui, oui, l'ascenseur, oui. ça vient de chez eux, oui.
Voilà, ça vient de chez
eux. Le bon sens.
Et partout, des salles de bain. Dans les maisons des gens, il y avait des salles de bain. Nous, on se lavait dans la cuisine, dans un bac.
En pièces détachées, comme on
pièces
disait.
Pièces détachées, voilà.
Voilà.
Et ça, il faut le souligner, parce que c'était un pays qui était très en avance.
Plus que les États allemands.
Beaucoup plus que les États
allemands. C'est un État. Un peu grâce aux Huguenots.
Voilà. Un peu grâce aux Huguenots.
Donc aux Français.
Donc aux Français, quelque part, on a mis notre petite main là-dedans. Allez,
bien.
On écoute la musique.
Allez, on part. Merci. Ah, dites donc, c'est écrit, comme on dit.
C'est beau, hein.
C'est alors, écrit, ça tombe.
Pour tout vous expliquer, parce que faut, l'histoire nous revient toujours dans la figure.
Oui, boum.
Cette marche a été utilisée à peu près 40 fois.
Oui.
Pour le jour de l'indépendance de l'Allemagne de l'Est.
Ah bon, d'accord.
Pour son défilé militaire. Pourquoi?
Ah oui.
Parce que vous devez savoir que les Allemands de l'Est défilaient au pas de loi.
Et oui.
Et bon, elle s'y prêtait bien, puisque à l'époque où on a créé cette marche,
les
Allemands normaux marchaient au pas de loi. Alors, et ça a été, c'est ce qui m'a surpris d'ailleurs un jour en assistant à Berlin au défilé de l'armée d'Allemagne de l'Est, la fameuse NVA, NVA, qu'il y avait cette marche. J'ai dit, mais on se croit dans un autre monde. C'était, ça a été pris. Et d'ailleurs, vous savez qu'on appelait les Allemands de l'Est, qui étaient très militarisés, très, très disciplinés, on les appelait en allemand « die Roten Preußen ».
Les Prussiens
rouges. Ce qui était quand même intéressant pour un pays communiste.
Oui.
Voilà. Donc, c'était, c'était très, très beau à voir, hein, parce que tu sais, des musiciens qui défilent, la fanfare qui défile au pas de loi.
C'est pas évident.
Il faut
marcher et jouer.
Ah oui, il faut marcher et jouer.
Ah
et
oui.
C'était, c'était quelque chose de beau à voir. Je dois le.
Et c'est un pas qui est très fatigant, qui exige beaucoup.
Qui est affreux. Les muscles.
Même l'écrivain Thomas Mann, quand il a commencé son service militaire, il n'a pas pu continuer parce qu'il avait l'inflammation du tendon d'Achille.
Ben oui, mais peut-être.
Donc il a été réformé.
Mais il nous a écrit beaucoup de choses.
Ça nous a permis d'avoir la mort à Venise.
En échange, je préfère la mort à Venise.
Ou la montagne magique. Bref, voilà. Nous revenons à la famille.
Voilà.
Merci. Nous poursuivons maintenant.
Alors, nous poursuivons.
Avec
donc,
madame votre mère.
J'ai fait. Alors, madame ma mère. Madame ma mère a eu une vie aussi très, très riche, comme toute la famille d'ailleurs, comme tu peux le voir.
Voilà.
Madame ma mère, elle a vécu normalement. Elle est née en 1911.
Oui.
Très mauvaise date. Et elle. Après la guerre de 14, alors après je vous expliquerai les vicissitudes qu'a vécu mon grand-père, hein, parce qu'il était militaire lui aussi. Bon. Et d'ailleurs, je l'ai conservé dans une photo que j'ai récupérée grâce au ciel avant sa disparition. Le voilà. Alors, madame ma mère. Donc, madame ma mère s'est trouvée à la fin de la guerre de voir commencer une scolarité.
Hein ? Et oui.
Voilà. Parce que, effectivement, la famille, en 1919, a été chassée de Prusse orientale. Voilà.
Et oui.
Au profit de, comment dirais-je, des populations polonaises qui ont pris, mais qui n'ont pas été vindicatives, hein, faut pas croire, mais qui, ils ont pris le terrain, hein, c'est tout. Bon. Et maman a été, alors il faut vous dire que mon grand-père était féru de civilisation française, je vous expliquerai après pourquoi. Et il avait découvert cette culture, parce qu'il était loin d'en posséder autant. Il avait une culture des chevaux, jusqu'à présent. Même s'il lisait beaucoup, il avait quand même... Et cette culture française qu'il a embrassée et qu'il a emmagasinée dans son être a fait qu'après la guerre, il souhaitait... Parce que, bien entendu, il est redevenu civil après la guerre. Hein, en 1919, il n'y avait plus d'armée allemande. Et l'armée qui restait, d'après le traité de Versailles et de Saint-Germain, c'était 100 000 hommes.
Oui,
c'est-à-dire pas grand-chose, pas de canons, presque
rien.
Des fusils
presque
encore,
rien.
Mais bon, presque rien. Donc, si vous voulez, on a commencé à éliminer les officiers qui étaient un peu plus âgés pour garder que les jeunes. Voilà. Et ce qui était une erreur, d'ailleurs, parce que les âgés, ils avaient une expérience de la guerre. Mais bon, peu importe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu absolument que ma mère ait une culture française. Mmh. Et évidemment, il ne s'agissait pas de l'envoyer à Paris pour faire des études. Donc, on l'a envoyé, où on parle en français aussi, en Suisse. Mmh. Voilà. Et maman a été dans une institution qui existe toujours, d'ailleurs, à Neuchâtel, qui était de la famille, qui existe toujours, d'ailleurs, la famille dite Trisolio, du nom. Et elle a été là-bas, elle a fait pratiquement toutes ses études jusqu'au baccalauréat et au-delà. Parce qu'à l'époque, les diplômes suisses avaient beaucoup de valeur. Et beaucoup de valeur en Allemagne, et beaucoup de valeur en France.
On le trouve dans les romans.
On le retrouve dans les romans. Et très bon. Et si vous voulez, quand elle est rentrée en Allemagne, elle a trouvé une... Parce qu'elle parlait désormais parfaitement le français, comme mon grand-père.
Et oui.
Enfin, elle parlait de 90 et 70, mais oui. Bon, c'était pas grave, on lui pardonnait. Et elle a été embauchée comme secrétaire de direction du président directeur général de Michelin AG. AG, SA, en Allemagne. Voilà. Et donc là, elle a progressé, elle a bien progressé, bien entendu, sur le plan de sa carrière. Et... elle avait connu, alors vous voyez, c'est toute l'histoire qui vient. Elle nous revient dans la figure de nouveau. Mmh. Elle avait connu en Suisse, vous savez que c'était un petit peu ces institutions culturelles suisses étaient un petit peu le rassemblement de tout le Gotha de l'Europe.
Oui.
Vous aviez des nobles italiens, des nobles russes beaucoup, des nobles et des gens de toutes les provenances, même anglaises. Elle a eu l'occasion de connaître une amie, permettez que j'ai connue encore, vous voyez que je suis âgée.
Mais bien sûr, mais oui.
Que j'ai connue et qui s'appelait, je ne vous donnerai pas le nom de famille parce que la famille existe toujours, mais qui s'appelait de prénom Dora.
Dora
est un prénom juif, bien entendu, vous avez compris.
Oui.
Et avec qui elle a été, vraiment, c'était son amie fidèle. À tel point fidèle, d'ailleurs, que un jour, bien entendu, ça c'est quand le petit moustachu est arrivé au pouvoir en Allemagne, qu'a commencé la persécution des gens d'origine ou juive. D'accord. Et si vous voulez, un jour, cette pauvre Dora est arrivée, c'était à Karlsruhe. Karlsruhe, c'est une très grande ville, c'est comme Paris à peu près.
Tout à fait.
Et Dora est arrivée, elle revenait de son travail, et elle a vu une limousine noire. Avec des gens, manteau de cuir et chapeau, qui emmenaient ses parents.
Eh oui.
Voilà. Donc, cette pauvre fille, elle était encore jeune. Elle avait 21 ans, ou peut-être même pas, je crois. Et elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle aurait été encore dénoncée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait, bien entendu, où vivait ma mère. Elle est allée là-bas et elle est tombée sur le grand-père. Et le grand-père, vous savez, dans les maisons de maîtres, ce qu'on disait à l'époque, il y avait toujours des chambres de bonnes au dernier étage.
Dernier étage.
Donc, comme elles étaient libres parce qu'ils n'avaient pas de bonnes, on l'a mis là-dedans immédiatement et on l'a cachée et on l'a nourrie. Voilà. Pendant... une bonne année, mais j'ai plus souvenance des temps qui ont été employés. Et je reviens à ma mère. Ma mère travaillait donc chez Michelin. Et Michelin, comme toutes les grandes entreprises en temps de guerre, travaillait un petit peu avec tout le monde. Ça rapportait de l'argent.
Voilà. Ah. Business is business.
Business is business. Et comme la Wehrmacht, à l'époque, avait besoin d'énormément de pneus pour ses véhicules, bah évidemment, on a pensé à Michelin. Bon. Mais Michelin, on ne pouvait pas tout vider en France. Il ne fallait pas que ça apparaisse. Donc, est-ce qu'on... Bah parce que Michelin, c'était zone libre. Hein. Donc, on ne pouvait pas en disposer vraiment. Et on transitait par la Suisse pour avoir des pneus Michelin qui arrivaient en Suisse. Donc, pays neutre, pas de problème, on pouvait livrer. Et la Suisse revendait avec une petite ristourne à l'Allemagne les pneus Michelin. Voilà. Et donc, ma mère était chargée de gérer un peu tout ce trafic, au sens noble et péjoratif du terme, d'ailleurs.
Il fallait que ça roule, en somme.
Il fallait que ça roule. Donc, voilà. Donc, là, elle a connu, bien entendu, des chauffeurs de camions suisses qui venaient apporter les pneus.
Oui, logique.
Logique.
Ben oui. Voilà.
Et ils amenaient d'autres biens vers la Suisse.
Ouais. Hein.
Et là, elle a eu l'occasion de s'acoquiner, je dirais, c'est pas le terme, mais
de se rapprocher,
gentiment d'un chauffeur suisse pour lui demander d'amener sa copine en Suisse. Ce qu'il a fait, je précise, sans rémunération. Il a tout refusé.
Ouais.
Et il a, donc, par humanisme.
Voilà.
Donc, il a caché, je ne sais pas comment, cette jeune fille dans son camion et il l'a amenée en Suisse. Voilà. Les camions suisses n'étaient pas contrôlés par les douanes parce que, bon, on connaissait ces trafics entre l'Allemagne et la Suisse. Et cette dame, donc, a été libérée, libre de ces mouvements. Et elle a connu... un monsieur qui était un Belge, juif de son état également, de sa religion, et qui avait été bloqué en Suisse en 1940 en raison de la guerre. Donc, il ne pouvait pas retourner en Belgique. Voilà. Et elle l'a épousé. Et puis après, bon, ils ont vécu une vie de liberté, d'abord en Israël, après en Afrique du Sud, parce que c'était un diamantaire.
Voilà. Ah, oui.
Et cette fille-là, je l'ai vue tous les ans. Elle venait rendre visite à ma mère le jour où elle est arrivée en Suisse.
Dis donc.
Anniversaire. Voilà l'histoire.
Il était une fois.
Alors, pour vous parler de mon grand-père rapidement, parce que on va m'en vouloir, comme d'habitude, parce que je suis bavard. Alors, comment dirais-je, mon grand-père militaire, il a fait, bien entendu, officier à Verdun. Bon, et à Verdun, il a été sous un éboulis dû au bombardement. Il y restait 3 jours, sans que personne s'en occupe, sauf qu'à un moment, les Français y sont arrivés à peu près à cet endroit, et ils ont vu des bottes qui dépassaient de l'éboulis, et puis ils ont tiré, et puis pof, il était vivant. Bon. Donc il a été fait prisonnier. Comme tous les prisonniers allemands de l'époque, on essayait de les éloigner du front, bien entendu, pour pas qu'ils s'évadent. Donc, on l'a transporté, lui, officier, parce qu'il était déjà officier d'état-major. Ils l'ont mis au Maroc. Au Maroc, on n'avait pas besoin de garde. Hein. C'était le désert, fil de fer barbelé, une tente, et ça suffisait. Mais le pauvre malheureux, en bon allemand, il n'a pas supporté la chaleur.
Ouais, hein. C'est ça.
La chaleur, c'était du 50-60 degrés à l'ombre. Bon, donc c'était quelque chose de terrible. Alors, les Français, ils étaient très gentils, comme toujours, et ils ont dit, bon, on ne peut pas le faire mourir là. Donc, on l'a rapatrié en métropole, mais quand même assez loin du front.
Hein. Ben oui.
Mais c'était un très mauvais choix, puisque on l'a mis dans la région bordelaise.
Oh.
Et figurez-vous, comme il avait été... aider à la gestion du bien en Prusse orientale, on l'a mis, les gens du château qui produisaient du vin l'ont mis comme gestionnaire comptable.
Mais, oui. Bon.
Puis évidemment, de temps en temps, il avait un petit verre de vin rouge. Et il a été accueilli je dirais pratiquement comme un fils. Ne croyez pas qu'il était dans l'écurie pour dormir. Il avait une chambre avec des draps. Donc c'est ça qui l'a fait réfléchir. Il a dit, mais attends, la propagande qu'on nous a distillée en Prusse à l'époque, enfin en Allemagne, c'était pas ça. C'est, les Français ne sont pas comme ça, ils ne coupent pas des oreilles à tout le monde. Je veux dire, donc il est resté et il a eu accès, chose absolument incroyable aussi, à la bibliothèque de ce château. Donc il a pu familiariser avec Pascal, avec des philosophes, avec des écrivains. Et ça l'a beaucoup intéressé, il n'avait rien à faire d'autre que ça le soir. Et il a quitté donc en 1919, je crois, avec beaucoup de regrets, ce château. Et évidemment, arrivé en Allemagne, et c'est là que je termine, il a été destitué de l'armée, bien sûr, parce que l'armée n'avait pas besoin d'autant de monde. Et il s'est trouvé sans emploi. Il s'est trouvé sans emploi, donc il a dit « je vais faire des études », ce qui l'avait intéressé, d'agriculture, pour apprendre l'œnologie, parce que ça lui avait vraiment plu.
Grâce à Bordeaux, si on peut dire.
Grâce à Bordeaux. Et, bien sûr, il a terminé brillamment ses études en 1926. Et en 1926, il a demandé un emploi. Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance parce qu'il a été désigné comme directeur de la centrale laitière de Karlsruhe.
Le vin avait blanchi.
Le vin avait blanchi et il n'avait pas d'œnologie du tout. Voilà.
Enfin, il pouvait boire.
Voilà, il pouvait boire. Et puis en plus, très rapidement, il a été destitué par les nazis parce que il était pas de cette bonne formule-là.
Oui.
Donc, il a été destitué, mis à la retraite, anticipé. Et ensuite, il a été lui aussi arrêté par la Gestapo parce qu'il ouvrait toujours sa grande bouche pour dire que l'Allemagne perdra. Donc, ça n'aura pas plus beaucoup. Et donc, il a été mis. Donc, il a terminé la guerre en 1945 dans une prison de Karlsruhe, comme ma mère, d'ailleurs, qui était soupçonnée d'avoir aidé quelqu'un à fuir.
Oui.
Mais ils n'avaient pas les preuves.
Non.
voilà un peu l'histoire de la famille.
Eh bien, voilà, merci.
Voilà.
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée.
La boucle européenne est bouclée.
Voilà.
Si je puis dire. Merci beaucoup. Pour ce tour familial de civilisation aussi.
Je tenais à en parler parce que c'est un petit peu l'histoire de l'Europe.
C'est ça, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que nous allons nous quitter à regret, et nous allons nous quitter avec...
C'est quelque chose de très beau, je parie. Non
avec l'hymne de la joie et l'hymne européen de Ludwig van Beethoven, sur un texte de Schiller aussi.
Schiller,
nous remercions Jimmy aux manettes. Bonjour à la jeune stagiaire. Bonne suite et merci encore pour ce voyage merveilleux qui est utile et qui prend toute sa valeur et tout son poids de nos jours.
Vous connaissez tout de moi.
Voilà, merci. Merci, bonne fin de journée et à bientôt.
Merci.
Dans un autre monde, au revoir.
Merci.
Auf mit Brüder eurer Mann.